Alors, lors des précédentes rencontres, nous avons commencé à parler de la révélation, du fait que Dieu révèle son mystère, il révèle son projet aussi. Il se manifeste et en même temps, il nous fait entrer dans son projet. Le Christ est le centre, le cœur de cette révélation. Le Christ nous rejoint aujourd'hui par le sacrement de l'Église. Et concrètement par les sacrements de la foi, c'est ce que nous avons un peu vu la dernière fois. Nous avons parlé rapidement des sacrements d'initiation qui nous font justement entrer dans le mystère de Dieu. Alors ce soir, j'aimerais avancer de quelques pages dans le catéchisme. Notre référence, c'est, je me rappelle, c'est le gros livre du catéchisme. Alors on ne va pas l'étudier de page en page, hein, mais pour commencer cette introduction, c'est un petit peu mon fil conducteur. Donc j'aimerais avancer de quelques pages en abordant la question, mais qui est Dieu? Quel est ce Dieu qui se révèle à nous, justement? Qu'est-ce que nous pouvons dire de Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons connaître de Dieu? Alors la première remarque que je veux faire, c'est que ce Dieu qui se révèle, c'est le même Dieu que nous pouvons trouver par l'usage de notre raison. Parce que nous pouvons, par notre raisonnement, par notre réflexion, arriver à une certitude sur l'existence de Dieu à partir justement de notre réflexion sur le monde. Alors c'est une réflexion de type philosophique. Tous les philosophes dans l'Antiquité sont arrivés plus ou moins à cette conclusion de l'existence d'un Dieu, d'un être suprême. Il y a donc des raisonnements, des réflexions. Ce ne sont pas forcément des démonstrations dans le sens scientifique, puisque Dieu n'est pas l'objet d'une expérience, mais on peut quand même arriver à une conclusion pertinente. L'Église parle de voie vers Dieu, pas de démonstration, mais de voie vers la connaissance de Dieu. Au cours de l'histoire, on voit même qu'il y a des philosophes qui n'aimaient pas cette idée de Dieu, mais qui ont quand même dû faire avec, puisqu'elle est incontournable. Je pense par exemple à Voltaire, vous connaissez peut-être cette citation, « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. » Donc, il faut se faire à l'idée qu'il y a derrière ce monde quelqu'un. Alors ça, ce sont le dieu des philosophes. Il y a aussi ce dieu justement qu'on touche à la limite de la science, des études scientifiques, et il y a beaucoup de scientifiques qui, en étudiant justement notre univers, ont effleuré cette conscience qu'il y a un créateur, sans parler justement de foi religieuse, mais simplement pour des raisons naturelles. Alors il y a un livre qui a été publié récemment, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, un gros livre bleu, « Dieu, la science, l'épreuve ». Je le mentionne juste parce qu'il est intéressant. Il a eu pas mal de succès, il le mérite. Alors il parle en fait de la théorie du Big Bang, l'état des lieux un petit peu sur cette théorie des origines, et qui montre que dans le cadre de cette théorie, on peut arriver à une certitude que finalement les processus qu'ils évoquent ne sont pas dus au hasard. Le temps même très long, le hasard, même avec beaucoup de chance, ne suffisent pas à justifier rationnellement la complexité et la cohérence de tout ce qui est sous nos yeux. Il y a une finalité dans le monde. Une finalité, ça veut dire que les choses existent à cause d'un projet qui les précède. Elles ne viennent pas par le hasard. Et nous arrivons justement à cette idée qu'il y a une intelligence extraordinaire, une intelligence qui nous précède, une intelligence probablement infinie qui a pensé toutes les choses. Plus fondamentalement même, le fait qu'on arrive à décoder le fonctionnement du monde, le fait qu'on puisse découvrir des lois auxquelles les choses obéissent, eh bien cela suppose qu'il y a un législateur pour établir des lois. Ces lois ont été pensées par quelqu'un ou quelque chose, quelqu'un qui a une intelligence. Le fait que le monde est intelligible, qu'on puisse nous le comprendre, suppose qu'il a été pensé et compris par quelqu'un avant nous. Donc tout ce, tout ça constitue un petit peu des chemins vers cette existence de Dieu avant même de parler de la foi. Et saint Paul lui-même confirmait justement l'importance de cette affirmation que Dieu existe à partir de l'observation du monde. Alors je cite saint Paul aux Romains: depuis la création du monde, on peut voir avec l'intelligence, à travers les œuvres de Dieu, ce qui de lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité. Alors, cette phrase de saint Paul est importante pour l'Église. L'Église en a même sorti un dogme pour affirmer qu'on peut arriver à la conclusion que Dieu existe avant même d'avoir la foi en Dieu. Alors, ce Dieu auquel la raison peut nous conduire, alors c'est pas automatique, hein, nous sommes dans une période d'athéisme aussi qui est fort, hein, qui existe encore, mais voilà, il y a quand même des scientifiques, des philosophes qui affirment toujours cette existence de Dieu. Alors ce Dieu que nous pouvons découvrir par cette manière-là, eh bien c'est bien lui qui s'est révélé volontairement, qui est entré dans notre histoire pour que nous entrions en relation avec lui, pour que nous entrions dans cette relation de la foi. Et par la foi, nous le connaissons d'une manière nouvelle, nous le connaissons par ce qu'il révèle de lui. Alors qu'est-ce qu'il révèle de lui-même? Alors il y a beaucoup d'aspects qu'il révèle, je vais juste en mentionner quelques-uns d'importants. Mais d'abord, quand il se révèle à Abraham et au peuple juif, il se révèle d'abord comme le Dieu unique. Une unicité qui tranche par rapport aux religions de l'époque, aux religions des alentours. Car dans les religions anciennes, même quand la raison a soupçonné l'existence de Dieu, du Dieu créateur, eh bien l'imagination a souvent complété la dévotion, hein, en rajoutant des dieux, en inventant un panthéon, des symboles religieux qui finalement ont un peu accaparé la place de Dieu. Et en contraste, le Dieu d'Israël se révèle comme le vrai Dieu unique, hein, à côté duquel il ne faut mettre personne d'autre. « Je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre », c'est une phrase qui revient souvent dans l'Ancien Testament. Et surtout quand le peuple d'Israël est tenté de fricoter avec d'autres dieux, d'autres symbolismes religieux, Dieu se rappelle toujours à lui comme l'unique. Dieu est aussi et surtout vivant et source de vie. Il met en œuvre sa puissance en accompagnant la vie. Il n'est pas qu'une image lointaine, qu'une puissance lointaine. Il est quelqu'un qui s'intéresse à la vie et qui donne la vie. Il n'est pas lointain, il se fait proche et il se révèle même au travers d'un nom. Et ça, c'est une grande partie de ce mystère du Dieu d'Israël, c'est qu'il est une personne en relation personnelle avec nous. Il a une identité, il n'est pas une force anonyme. Livrer son nom, c'est se faire connaître aux autres. C'est en quelque sorte se livrer soi-même en se rendant accessible, capable d'être connu plus intimement et d'être appelé personnellement. Nous connaissons l'épisode du buisson ardent où Dieu donne son nom à Moïse, Yahvé, le tétragramme, les quatre lettres saintes. Un nom tellement sacré que les Juifs ne le prononcent pas. Quand ils lisent le texte, quand ils lisent le nom de Dieu, ils disent Adonai, le Seigneur. Ils ne disent pas Yahvé. Par respect, justement, pour ce mystère tellement extraordinaire. Un mot, un nom qui n'est pas juste un mot, mais qui dit finalement son être. Puisque si on essaye de le traduire, il n'y a pas une traduction absolument sûr, il y a plusieurs essais de la traduire, c'est « je suis celui qui est »,« je suis celui qui suit », »,« je suis qui je suis ». C'est difficile d'être extrêmement précis, mais en tout cas on est autour de la notion d'être, celui qui est. Alors en même temps il révèle justement son nom, et c'est en même temps le refus d'un nom. Ce n'est pas vraiment un nom simple par lequel on puisse l'appeler, c'est un nom vraiment mystérieux. Et c'est par là même que ce nom révèle au mieux qui Dieu est, justement. Il est infiniment au-dessus de ce que nous pouvons comprendre ou dire. Parce que quand nous parlons de l'être, c'est quelque chose qui est pour nous On a une intuition de ce qu'est l'être, mais on ne peut pas le saisir. Dieu révèle qu'il est saint. Saint, la sainteté de Dieu, c'est qu'à son contact, nous sentons la transcendance. Nous sentons qu'il est une réalité qui n'est pas simplement comme nous, plus grande que nous, qui nous dépasse en quantité, plus grand, mais il nous dépasse en qualité, il est radicalement différent. Il est tout à fait autre. Et nous touchons là sa sainteté, sa transcendance. Devant cette sainteté, nous sommes saisis par notre radicale différence par rapport à lui. Nous entrons dans un respect profond de sa grandeur, de sa transcendance. Nous découvrons la crainte de Dieu. C'est un mot qui vient souvent dans l'Ancien Testament. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu, mais c'est ce respect devant la transcendance de Dieu, la sainteté de Dieu qui se révèle. Cette sainteté de Dieu n'est pas écrasante, car en même temps qu'il se révèle transcendant, il se révèle infiniment proche. Proche, compatissant, intime à la vie des hommes. Il se révèle comme Dieu de tendresse et de pitié. Il se révèle tout au long d'une histoire, il accompagne l'histoire des hommes où il montre sa fidélité et son amour. Il développe une pédagogie même envers les hommes pour dire justement sa proximité et l'intérêt qu'il porte à une relation intime avec nous, tout en gardant sa transcendance, sa sainteté. Alors, en résumé, Dieu est. Il est la plénitude de l'être et de toute perfection, sans origine et sans fin. Alors que toutes les créatures ont reçu de lui ce qu'elles sont et ce qu'elles ont, lui seul est, librement et seulement. Il est de lui-même tout ce qu'il est. Dieu se manifeste aussi comme Dieu de vérité. Alors Dieu est la vérité, bien sûr, puisqu'il connaît l'être des choses, il est l'être. Et ses paroles, quand il parle, ne peuvent pas tromper, elles sont vraies. C'est pour cela qu'on peut se livrer en confiance à lui, à sa vérité et à toutes ses paroles, justement. Dieu qui seul a créé toutes choses, le ciel et la terre, Dieu seul peut donner la connaissance véritable de toute chose créée dans sa relation à lui. C'est pour ça que nous avions parlé la dernière fois de croire Dieu quand il parle, puisqu'il est vrai, il est véridique. Nous pouvons le croire, ça fait partie de notre foi. Et surtout, Dieu est amour. Alors ça, c'est une expression qui est pour nous très importante, qu'on va un petit peu développer ce soir, justement. Alors, au travers de toute l'histoire sainte, on peut déjà, de l'Ancien Testament, on voit que Dieu se révèle aimant, puisque concrètement, il s'intéresse à un peuple, une histoire, il s'engage envers ce peuple, il aime les personnes, il aime ce peuple élu. Mais en Jésus, nous allons justement découvrir qu'il n'est pas seulement aimant, mais Jésus va nous expliquer que Dieu est amour. Car ce Dieu qui est unique, le Dieu, c'est toujours le même Dieu dont on parle, ce Dieu unique n'est pas solitaire. Il y a quelque chose en lui qui est une ouverture à l'amour, une ouverture profonde à l'amour. Et c'est par là que nous entrons dans le mystère justement de la Trinité. Dieu est amour, qu'est-ce que ça peut signifier? Eh bien, en fait, quand Dieu, avant même qu'il ait créé le monde, il aimait, bien sûr. Et quand Dieu s'aimait lui-même, eh bien, il faut essayer de concevoir que Dieu aimait un autre. Quand Dieu s'aime, il ne dit pas « je m'aime », comme nous le dirions, quand je m'aime, je dis « je m'aime ». Quand Dieu s'aime lui-même, il dit « je t'aime ». En Dieu, il y a « je, tu et l'amour ». Il y a cet amour qui n'est pas fermé, qui sort de lui-même. Lorsque Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, quand il a envoyé son esprit d'amour, il a en fait révélé son secret le plus intime, c'est qu'il est lui-même éternellement un échange d'amour. le Père, le Fils et l'Esprit Saint, justement. Et cet échange d'amour, il nous a invités à y prendre part. Alors ce mystère de la Trinité, je crois que je l'ai déjà dit, on peut le percevoir seulement si on accepte d'entrer dedans, justement, si on accepte cette révélation de Jésus et cette invitation à entrer dans ce mouvement d'amour. Lorsqu'on comprend que Jésus est quelque chose de plus qu'un homme, alors il est un homme, un vrai homme, ça c'est sûr, mais il est aussi la présence de Dieu. Et quand nous accueillons ce mystère, il nous propose d'entrer dans sa relation au Père par leur commun esprit, l'esprit qui est le sien et celui du Père. Alors pour percevoir un petit peu profondément ce qu'est justement cette Trinité, il me paraît essentiel d'écouter ce que Jésus dit, puisque c'est à partir de ses paroles, de son témoignage, que nous pouvons percevoir quelque chose. Le Père et moi, nous sommes un. Alors Jésus ne dit pas « nous sommes deux », justement. Le Père et moi, nous sommes un. Il ne dit pas non plus « le Père et moi, je suis un », puisque Jésus n'est pas le Père. Donc on a en même temps cette affirmation de l'identité de chacun et l'unité. Ce qu'est le Père, le Fils l'est aussi. Le Père est en moi comme je suis dans le Père. Alors Jésus se présente aussi comme la parole de Dieu. Une parole qui existe depuis toujours, la parole par laquelle Dieu a tout créé, on appelle le Verbe. Et ça rejoint ce que les philosophes grecs avaient découvert par rapport au Logos, par lequel Dieu a créé. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était auprès de Dieu, et en même temps, il était Dieu. Dans d'autres citations, Jésus nous révèle encore des éléments. Il nous montre que le Père et le Fils ont un peu les mêmes attributs, les mêmes attributions. Comme le Père relève les morts et les fait vivre, le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Comme le Père possède la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils de posséder la vie en lui-même. Donc on a cette idée que la vie divine est la même dans le Père, dans le Fils. La seule distinction, c'est que le Fils l'a reçue. Mais, puisqu'il a, le Père a donné au Fils, mais finalement il possède la vie. Jésus nous parle aussi de l'Esprit Saint, cet Esprit qui réalise sa communion d'amour avec le Père, leur Esprit commun. Alors cet Esprit Saint, il en parle surtout vers la fin de sa mission, car la mission propre de l'Esprit Saint va alors commencer, il va se manifester. Sa mission, ce sera d'étendre sa relation intime au Père, la relation du Christ au Père, à toute l'humanité, par le sacrement de l'Église. C'est ce que nous avions déjà dit les fois précédentes. Et Jésus disait l'importance justement capitale de cet Esprit Saint en parlant du baptême. Amen, amen, je te le dis, personne à moins de naître de l'eau et de l'Esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Entrer dans le royaume de Dieu, entrer dans la vie de Dieu, c'est naître de l'Esprit. Naître de l'Esprit, c'est devenir fils dans le Fils unique et voilà, recevoir la vie du Père. Jésus parle encore de l'Esprit Saint qui est aussi vérité et qui nous révèle la vérité. Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour le faire connaître. Ce sont des phrases qui sont assez denses, hein. Il faut lire, réécouter, méditer. Mais on peut sentir que cet esprit, c'est à la fois l'esprit du Père et l'esprit du Fils qui nous fait justement connaître et expérimenter la vie de Dieu. Alors il y a encore des phrases encore plus mystérieuses qui nous disent justement bien, comment nous entrons dans cette vie divine, comment nous entrons dans ce mystère de la vie trinitaire. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Donc, il y a cette communion du Christ et de son Père qui s'élargit à une communion de nous avec le Christ. Et nous connaissons bien la prière du Christ, la grande prière du Christ. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. Qu'ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc cette unité qui est caractéristique de l'union du Père et du Fils, eh bien, il veut qu'elle se réalise dans l'humanité, dans l'Église. Que nous aussi nous soyons un en lui. Alors Dieu est Père, il est Fils, il est Esprit. Cela ressort de tout ce que Jésus nous dit, de son témoignage, c'est un petit peu incontournable. Et cette triade, le fait qu'il y ait trois éléments, c'était clair pour les premiers chrétiens, en tout cas pour les juifs qui ont accueilli cette révélation. C'est clair dans les premières formulations aussi de la foi. Quand Jésus invite au baptême, il dit « De toutes les nations, faites des disciples ». Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Une formule qu'on connaît bien, qui n'a pas bougé depuis 2000 ans. Une formule aussi qu'on utilise parfois dans la liturgie. Saint Paul, dans la fin de la lettre aux Corinthiens, il dit « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous ». On a cette mention du Père, du Fils, de l'Esprit, qui est comme logique, naturelle, dans notre vie de chrétien, puisque c'est comme cela que Dieu s'est révélé à nous. Alors, nous parlons aujourd'hui de la Trinité. Alors, ce mot, il faut reconnaître qu'il n'apparaît pas dans la Bible, justement. C'est pas Jésus il nous a parlé de la Trinité, mais sans utiliser de mots, justement. En fait, dans la Bible, dans toute l'histoire sainte, eh bien, il raconte comment Dieu a agi, comment il s'est révélé au moyen de cette histoire, de son action dans l'histoire. En fait, cette histoire est écrite en termes économiques. Je vous ai parlé déjà ce mot économie. L'économie, c'est en fait la manière dont Dieu se communique, dont il se donne progressivement au travers des événements. Il se dépense, il se montre progressivement. C'est l'économie divine, l'économie du salut. Donc ça, c'est la manière de se donner au travers de l'histoire. Mais voilà, nous ne pensons pas qu'en termes d'histoire, hein, quand nous réfléchissons, il y a aussi un moment où notre raison, notre esprit veut percevoir les choses de manière large. Il y a aussi le temps de la théologie, c'est-à-dire une parole sur Dieu. On veut dire quelque chose concrètement, précisément sur Dieu. On veut élaborer un discours sur Dieu. La raison veut prendre sa place et comprendre. Alors en particulier, notre foi chrétienne est venue se confronter, puis s'intégrer à la tradition philosophique d'origine grecque, dans les premiers siècles de l'Église. Et on s'est posé la question, comment dire que Dieu est un, et en même temps qu'il y a ces trois personnes divines, sans dire que un égale trois ? Parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose à creuser, à préciser. Et c'est comme cela que, après beaucoup de débats, hein, surtout au IVe siècle, jusqu'au IVe siècle, hein, l'Église a forgé son vocabulaire, le vocabulaire définitif, en adoptant quelques mots qui sont d'origine philosophique, hein, pas pour cautionner une philosophie, mais pour utiliser des outils. Hein, il faut des mots. Utiliser des mots qui peuvent paraître compliqués, mais qui sont utiles, qui nous sont utiles. Alors, pour parler de ce qu'est Dieu, de ce qu'il est, hein, donc de du Dieu un, on parle de sa nature ou de sa substance. Parfois, on dit aussi l'essence, mais plus souvent la substance divine ou la nature divine. La nature de Dieu est une. Il est une seule substance, il est un. Quand on parle du Père, du Fils et de l'Esprit dans ce qui les distingue, on va parler de personne ou d'hypostase. On va plutôt parler de personne entre nous. Hypostase, c'est un peu plus compliqué. La personne. Mais la seule chose qui distingue ces personnes, c'est en fait leur relation. C'est la manière dont ils se réfèrent l'un à l'autre. Puisque en dessous de ces personnes, c'est la même nature. C'est la même substance. C'est le Dieu unique. Nous croyons que Dieu est un dans sa nature et en trois personnes. Parfois, cette expression de la Trinité consubstantielle. Consubstantielle, ça veut dire c'est la même substance. Et c'est une seule substance et c'est la même substance. Le Fils est consubstantiel au Père. C'est la formule que nous avons dans le Credo, dans la nouvelle traduction du Credo, puisque autrefois on disait de même nature que le Père. Les traducteurs ont cru bon de venir à une traduction plus littérale, consubstantielle. Du coup, ça paraît plus barbare, mais bon, ça veut dire la même chose, justement. C'est la même chose, c'est la même nature, c'est la même substance, c'est Dieu. Ce qu'est le Fils, c'est ce qu'est le Père. Dieu est unique, mais il n'est pas solitaire. Parce que justement, il y a ce mystère de la relation par rapport à lui-même. En Dieu, tout est un, sauf ce qui concerne justement ses relations. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint ne sont pas trois masques ou trois modalités de Dieu. Ce n'est pas trois manières d'apparaître non plus. Il y a une vraie relation entre eux. Il y a une vraie distinction dans leurs relations. Le Père est celui qui engendre, le Fils, celui qui est engendré, l'Esprit Saint est celui qui procède de l'un et de l'autre. Procéder, c'est provenir, il tire son origine. C'est Jésus lui-même qui avait dit, il procède du Père. Alors, il faut faire un petit peu attention à l'image que nous avons à l'esprit lorsque nous parlons de Père et de Fils. Parce que c'est une image. Quand nous parlons de Père et de Fils, nous avons l'image de notre vie familiale. Et le Père, il vient avant le Fils. Le Père et le Fils, c'est deux personnes qui sont distinctes. Alors, justement, il faut faire attention aux limites de cette image. C'est la meilleure image qu'on ait trouvée pour expliquer Dieu. C'est l'image que Jésus lui-même a utilisée, justement, parce qu'elle dit quelque chose de vrai. Mais il y a aussi quelques pièges derrière cette image, justement. Parce que le Père n'existe pas avant le Fils. Il n'existe pas à côté du Fils. Mais quand nous disons Père et Fils, nous disons que l'un est la source, la racine, l'origine. Et que l'autre, en fait, reçoit tout ce qu'il est. Il reçoit tout ce qu'il est de cette source. Alors, si nous voulons justement continuer de méditer sur le Père, le Fils, l'Esprit Saint, il y a un texte de l'Église ancienne qui est très intéressant, très riche, très profond. Alors, on connaît le symbole des apôtres, le symbole de Nicée-Constantinople, les credos que nous disons à la messe. Mais il y a aussi un troisième symbole de la foi qui est important, donc un formulaire de notre foi qui a été formulé par saint Athanase au IVe siècle. Symbole de saint Athanase et qui vraiment développe ce mystère de la Trinité, le mystère aussi de l'incarnation ensuite, du Fils, mais le mystère de la Trinité. Alors je ne vais pas vous le lire en entier, ce symbole de saint Athanase. Je vous ai mis sur la feuille le nom d'Athanase pour que vous puissiez chercher sur Internet le texte complet, mais je vais vous lire un petit morceau quand même. Le Père ne tient son existence d'aucun être. Il n'a été ni créé ni engendré. Le Fils tient son existence du Père seul. Il n'a été ni fait ni créé, mais engendré. L'Esprit Saint est du Père et du Fils, ni fait, ni créé, ni engendré, mais procédant. Il y a donc un seul Père et non trois Pères, un seul Fils et non trois Fils, un seul Esprit Saint et non trois Esprits Saints. Et en cette Trinité, rien n'est antérieur ou postérieur, rien n'est plus grand ou moins grand, mais les trois personnes tout entières sont coéternelles et égales entre elles. De sorte qu'en tout, on doit adorer l'unité dans la Trinité et la Trinité dans l'unité. Alors, ce mystère du Dieu Père, Fils et Esprit Saint, on le résume parfois par cette petite image, hein, ce petit dessin qu'on appelle le bouclier de la foi, le bouclier de la Trinité. Alors c'est du latin, hein, les mots. Au milieu c'est Dieu, Deus. Donc en haut le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit est Dieu. Mais si on regarde les personnes, si on fait le tour du triangle, ben le Père n'est pas le Fils, il n'est pas l'Esprit Saint, l'Esprit Saint n'est pas le Fils. Voilà. Donc c'est une manière un peu de schématiser, hein, parce qu'on aime bien visualiser les choses pour avoir l'impression qu'on les comprend. Hein. Alors, une substance en trois personnes, ça paraît compliqué, mystérieux. Hein. C'est mystérieux dans le sens du mystère, hein, dont on a déjà parlé. Justement, le mystère, c'est ce contact avec la vie divine qui nous dépasse, qui est infini. Mais ce mystère de la Trinité, c'est finalement une clé qui nous permet de comprendre tout ce qui existe. Parce que Dieu est en relation d'amour éternellement en lui-même, eh bien, c'est pour cela qu'il a voulu créer quelque chose en dehors de lui, qu'il a voulu créer le monde, et qu'il a voulu mettre au cœur de ce monde des créatures personnelles, nous, libres, libres comme lui, et capables d'amour. Le fait que Dieu soit Trinité nous permet de comprendre cette dimension de communion qui est gravée dans notre nature humaine, car nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous allons revenir là-dessus une prochaine fois en parlant un peu plus de la création, justement. Plus nous entrons dans la vie de la foi par l'Esprit Saint qui nous connecte à la vie du Christ, plus nous percevons cette vie divine qui est pur don d'amour. Le Père donne sa vie au Fils qui se rend à son Père dans cet échange d'amour qui est l'Esprit Saint. La vie chrétienne est communion avec chacune des personnes divines, sans aucunement les séparer. Nous rendons gloire au Père par le Fils dans l'Esprit. Nous suivons le Christ parce que le Père nous attire et que l'Esprit nous met en mouvement. Alors, je voulais encore revenir terminer ce petit paragraphe, au symbole de Nicée-Constantinople que nous récitons maintenant tous les dimanches, justement dans sa nouvelle traduction, qui nous dit les éléments essentiels de notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Alors, sur la feuille, je vous ai mis le début, en fait, du credo, enfin les éléments principaux, en latin. Parce que le français, vous connaissez par cœur, je me suis dit. Voilà. Mais c'est pour vous faire vérifier ce que je vous ai dit la toute première fois, justement. C'est que quand disons nous croyons en Dieu, croire en quelqu'un, c'est entrer dans cette relation d'amour, de confiance, une relation personnelle. Et je disais, quand on croit en Dieu, on croit en les personnes divines, justement. Nous croyons en le Père, en le Fils, en l'Esprit Saint. Et c'est ce qu'on voit, credo in, in. Le in, c'est le en. Je crois en un Dieu Père, en un Seigneur Jésus-Christ, en l'Esprit Saint Seigneur. Donc devant chacune des personnes divines, il y a ce « je crois en ». Et quand nous parlons de l'Église, je crois « et l'Église ». Je crois l'Église. Je crois l'Église, une sainte catholique et apostolique. Donc ça c'est le vrai texte, et la vraie traduction c'est « je crois l'Église ». Voilà. Sauf que la traduction officielle, nous disons « nous disons fortement « je crois en l'Église », une sainte catholique et apostolique, voilà. Mais c'est la traduction qui n'est pas tout à fait juste et qui peut nous perturber un petit peu, parce que croire en, c'est vraiment réservé aux personnes divines, parce que ça dit notre relation personnelle à Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint. Alors, je voulais juste corriger avec vous ce petit détail. Alors, se représenter la Trinité, oui, c'est difficile. Hein. Déjà avec des mots, avec des concepts, on essaye. On accueille surtout ce que Jésus nous dit, justement. On accueille ce qu'il nous fait vivre, ce qu'il nous donne de vivre. C'est peut-être encore plus difficile quand on veut dessiner et représenter la Trinité. Hein. Alors, il y a quelques manières de figurer, de symboliser la Trinité. Alors, comme il y a des préfigurations de la Trinité dans l'Ancien Testament, eh bien, parfois des manières de représenter la Trinité, par exemple au travers des visiteurs d'Abraham. Nous connaissons cette icône. Donc Dieu qui visite Abraham au travers de trois anges. Donc on a dans la tradition chrétienne vu assez rapidement une annonce de la Trinité. On peut parfois représenter la Trinité comme un triangle. Parfois avec un œil dedans. Plus souvent, on représente la Trinité avec le Christ, bien sûr, une colombe et un vieillard. On connaît ce genre de représentation. Alors, en fait, ça vient de la vision du prophète Daniel, qui voit le vieillard sur son trône, hein, qui est Dieu, et à ses côtés, un fils d'homme. Et c'est d'ailleurs à cause de cette vision de Daniel que Jésus s'appellera toujours le fils de l'homme. Il va privilégier cette nomenclature. Donc ce vieillard, ce fils d'homme et la colombe qui vient bien de ces manifestations de l'Esprit Saint au moment du baptême de Jésus. Alors du coup on représente hein, le vieillard, le Christ, la colombe, mais on a trois éléments. C'est compliqué de ne pas représenter trois choses qui sont distinctes. Hein, puisque voilà, quand on représente le 3, on perd le 1. Quand on représente le 1, on perd le 3. Hein. C'est ce qui est un petit peu compliqué. Il faut peut-être accepter de ne pas pouvoir représenter justement la Trinité. Et d'ailleurs, quand Dieu a voulu se représenter, se montrer, eh bien, il se montre au travers d'une personne, le Christ. Et Jésus dit lui-même, « Qui me voit, voit le Père. » C'est d'ailleurs pour cela que nous pouvons, en tant que chrétiens, représenter Dieu. C'est pour cela qu'il y a une tradition iconographique dans l'Église, justement, qu'on a une tradition de représentation, parce que Dieu lui-même a voulu se montrer, se manifester. Alors qu'auparavant, les Juifs avaient l'interdiction de représenter, pas seulement Dieu, mais tout ce qui existe, justement, pour éviter de tomber dans l'idolâtrie. Eh bien, depuis que Dieu s'est rendu visible en Jésus, ben, nous pouvons, nous, bien rejoindre Dieu au travers de cette image du Christ. Et nous pouvons aider notre dévotion, notre prière, au travers des images. Et comme la vie du chrétien, c'est une participation à la vie de Dieu aussi, hein, on l'a déjà dit et puis on le redit, eh bien nous pouvons aussi représenter les saints, hein, ceux qui vivent de la vie du Christ, hein, ceux qui, après le Christ, bien resplendissent de sa vie, hein, sont unis à sa vie. Ces saints qui sont autant de compagnons, qui sont autant d'encouragement pour nous, et qui nous aident à refléter dans notre vie humaine le mystère de la vie divine. Ces saints ben, que nous allons honorer bientôt dans la fête de la Toussaint, la semaine prochaine. Cette fête de la Toussaint, ce ne sont pas que les saints qui sont au ciel, c'est aussi notre fête, puisque nous sommes saints, nous participons à la vie de Dieu, la sainteté de Dieu. Nous la recevons dans notre vie déjà aujourd'hui. Saint Pierre nous dit cette phrase étonnante, « Vous devenez participants de la nature divine. » Alors, nous ne devenons pas le Dieu unique, hein, évidemment. Quand Dieu nous donne sa vie par son Esprit Saint, justement, eh bien, on parle de la vie de la grâce. C'est par sa grâce que nous sommes participants à la vie de Dieu. Mais c'est vraiment cette vie divine qui se diffuse dans nous, ces créatures. Alors justement, je voulais terminer par cette exhortation de Saint Pierre. À l'exemple du Dieu saint qui vous a appelé, devenez saints vous aussi dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. Voilà cette invitation à entrer en communion avec le mystère de Dieu pour percevoir qui est Dieu et pour exprimer la vie de Dieu finalement au travers de ce que nous avons à vivre aujourd'hui pour devenir saints, témoins de Dieu.